Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative.
Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, en ce mois de décembre, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de C'est dans la boîte, accompagné de nos quatre chroniqueuses, Louise, Elidia, Roman, Maïlis et moi-même.
Bonjour.
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 Le thème du jour est centré sur le monde de l'entreprise, c'est un sujet assez vaste, mais nous allons essayer de vous expliquer plus en détail les actualités qu'il s'y passe. Pour commencer, nous allons débuter cet épisode avec le sujet de Louise. Allons-y, nous te laissons la parole.
Merci. Alors, mon sujet s'intitule « La gestion de son e-réputation pour une entreprise ». Car en effet, nous savons que de plus en plus maintenant, avec le développement constant des technologies et notamment des réseaux sociaux, les entreprises doivent davantage développer des éléments pour garder une bonne image sur les réseaux sociaux, surtout lorsque l'on sait qu'une rumeur ou une mauvaise publication peut faire le tour des réseaux en quelques heures, voire en quelques minutes. Alors il faut tout d'abord savoir se servir des technologies afin d'éviter une mauvaise publication, comme affirmé par quelques dirigeants d'entreprise qui disent, je cite, « Si on pouvait compter auparavant sur le bouche à oreille, à l'heure des réseaux sociaux, on se sent obligé de rentrer dans le jeu de la notation. Les consommateurs sont devenus tellement dépendants de cet outil, mais cependant, il faut savoir s'en servir. » L'entreprise France Télévisions se fait la même réflexion et le responsable du Media Lab, M. Valabras, fait la réflexion suivante. Il faut faire en sorte que les collaborateurs arrivent à maîtriser la technologie. L'entreprise a donc mis en place une solution qui est de s'appuyer sur son centre de formation France TV Université qui a permis à plus de 5 000 personnes d'être formées, soit plus d'un salarié sur deux. La formation est un sujet qu'il faut prendre en compte dans le processus de mise en œuvre de l'innovation. Mais le risque d'une mauvaise publication en ligne ou encore e-réputation qui est, je le rappelle, pour les personnes qui ne le savent pas, l'image en ligne d'une entreprise ou d'une personne peut résulter une autre qu'une mauvaise publication de l'entreprise. En effet, le groupe Barrière a porté plainte pour des publicités de jeux vidéo en ligne illégales usurpant l'image de la marque pour inciter les joueurs à s'inscrire. Car une fois l'arnaque trouvée par les internautes, le groupe va subir les commentaires négatifs des internautes à leur sujet et pourrait potentiellement perdre en clientèle.
Alors j'ai justement pu interroger un professionnel et donc ma question c'était « Pensez-vous que l'image d'une entreprise est essentielle pour son développement ?» Donc ce professionnel m'a répondu que oui, car aujourd'hui la vie des consommateurs ne reposait limite plus que sur ça. Si l'image de l'entreprise était positive, alors c'était bénéfique pour l'entreprise, peut-être même de l'accélération du développement pour cette entreprise ou bien le contraire si cette image est négative.
D'accord, ça marche. Pour poursuivre mon sujet, pour les entreprises dans le milieu de la restauration, il est possible de faire appel à la nouvelle start-up créée en 2021 qui a notamment séduit Bernard Gelspanner, le fondateur de The Fork, créé par le français Malou qui est un faiseur d'e-réputation de restaurant. En effet, en sachant que les professionnels de restauration doivent être sur plusieurs sites en ligne pour être visibles, comme Google ou Deliveroo, cette start-up centralise les informations des restaurateurs pour leur permettre d'automatiser la gestion de leur e-réputation qui est effectuée en prenant le temps de faire avec l'expertise requise dans ce domaine, comme le rappelle la directrice de la start-up, Louisa Ensené.
Alors Louise, comment intervient un site tel que Google dans l'e-réputation d'une entreprise ?
Alors avec les avis, notamment au niveau donc de l'hôtellerie, la restauration ou encore la grande distribution, de plus en plus maintenant, l'usager se repose sur les avis et en laisse. Et c'est ce qui détermine la note donnée à l'entreprise et par conséquent ce que l'usager qui regarde les avis va voir comme perception de l'entreprise. C'est donc un site à ne surtout pas négliger dans l'e-réputation, car c'est lorsque l'on cherche sur Google, bien souvent on trouve la note et les avis des usagers.
Et y a-t-il d'autres formations qui existent pour se former aux technologies afin de bien savoir les manipuler ?
Il est possible pour les entreprises d'inclure dans ces exigences de compétences salariales au niveau de la plateforme PIX, qui est une plateforme avec une certification informatique à la clé.
Et as-tu un exemple d'entreprise qui a une mauvaise réputation en ligne ?
Oui, on a par exemple l'exemple de Shane. Si vous tapez Shane sur le réseau social TikTok par exemple, vous trouverez Shane Ouïghour avec beaucoup de vidéos les dénonçant et des vidéos datant d'il y a un an, tout comme datant d'il y a quelques mois. Alors même si Shane est encore une entreprise avec un chiffre d'affaires assez conséquent, dans les commentaires des publications Shane sur TikTok ou autres, beaucoup d'internautes l'associent toujours aux Ouïghours. Elle n'a pas quitté cette image. Merci de m'avoir écouté.
Alors merci Louise, maintenant nous passons à mon sujet sur le télétravail. Si on se remémore la période du Covid-19, on se remémore aussi la tendance du télétravail qui a été une solution pour faire face à la faillite liée à la crise. C'est en 2021 que beaucoup d'entreprises ont commencé à s'y intéresser. Cela a permis de sauver pas mal d'anciennes, mais le télétravail est-il encore au goût du jour ? Aujourd'hui, c'est une question qui est fortement présente dans l'actualité du monde du travail, car un grand nombre de PDG remettent son efficacité en cause. Le télétravail, c'est quand on exerce son activité professionnelle à distance, grâce à des outils de télécommunication. À l'heure actuelle, le télétravail en temps complet, comme à l'époque de la crise sanitaire, s'est transformé en télétravail partiel, c'est-à-dire en général 1 à 2 jours de télétravail chez soi. Cette pratique du télétravail s'est ancrée dans les mœurs, c'est une stratégie d'entreprise avec un grand nombre d'avantages, comme le fait d'avoir moins de déplacements de la part de ses salariés pour gagner du temps et limiter les coûts liés au transport qui deviennent de plus en plus chers avec l'inflation, mais aussi de pouvoir limiter les coûts liés aux charges et à l'entretien des locaux.
Justement, Lou, j'ai pu demander à un professionnel si pour lui le télétravail était efficace. Donc ce professionnel m'a répondu que ça permettait d'améliorer sûrement la qualité du travail, mais aussi sa productivité, puisque s'il était chez lui, alors il était dans son environnement, et l'environnement est très important sur la qualité du travail. Il pense cependant que c'est chacun son avis, et que cela dépend aussi du mode de vie de chacun.
Alors merci Maëlys, c'est une intervention très pertinente.
Oui, mais pourquoi alors certains leaders voudraient faire machine arrière malgré tous ces avantages, Lou ?
Car d'après une étude de l'OpinionWay, par la messagerie professionnelle de Slack réalisée fin octobre auprès de 1063 travailleurs, 46% avoueraient ressentir une pression pour un retour en présentiel dans leurs locaux. Selon plusieurs PDG, des besoins s'expriment pour revenir davantage en entreprise. C'est pour cela qu'ils seraient ainsi de plus en plus nombreux à resserrer la vis en revoyant leur politique de télétravail. L'emblématique créateur de ChatGPT, Sam Altman, n'a pas mâché ses mots en qualifiant le télétravail à distance de grave erreur. Il n'y a que Sam Altman qui le pense. Une enquête nommée 2023 CEO Outlook, fait par le KPMG auprès de 1300 PDG, confirme que 2/3 d'entre eux prévoient que les employés retourneront au bureau toutes les semaines au cours de ces 3 prochaines années, car beaucoup de directeurs d'entreprises dans le monde entier trouvent que la pratique du télétravail cause la perte du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Les salariés se sentent mis de côté, ce qui nuit à la motivation et donc provoque une baisse de performance de l'activité. D'après une enquête de Emmanuel Lavignac, secrétaire national de Logique CGT, il n'y a pas que les grands PDG qui le pensent, car les salariés reconnaissent eux-mêmes que le télétravail peut avoir un impact négatif sur le collectif et la créativité. Certaines organisations se réorganisent pour pallier cet effet nuisible du télétravail, comme l'entreprise Groupama Immobilier qui a décidé depuis le 14 novembre de faire revenir ses salariés tous les jours au bureau pour une durée test de 3 mois. Car actuellement, l'entreprise traverse une crise immobilière. Groupama a souligné qu'il est compliqué de traverser une crise tout en se serrant les coudes par Teams, qui est une application de visioconférence. Au retour de l'expérience, il espère avoir un effet sur la productivité. Une étude du MIT a relevé une réduction de 18% de productivité avec le télétravail et pointe également des difficultés de communication et de coordination pour expliquer ce phénomène. Malgré un engouement pour le travail hybride et flexible que donne le télétravail à distance partielle, il faut commencer à avoir un abandon proche du télétravail au sein des entreprises.
Oui, mais dis-moi Lou, est-ce que cela ne va pas être trop difficile de faire changer les habitudes des salariés ?
Alors oui, cela risque d'être compliqué car de nos jours, un salarié au télétravail a pris goût à son confort chez soi. De plus, la hausse des coûts en général liés à l'inflation, le fait de se redéplacer pour venir travailler va leur générer des frais en plus. C'est pour cela que certaines entreprises sont en train de revoir leur stratégie de motivation avec la mise en place de récompenses ou de compensations pour réduire les coûts de leurs salariés, mais aussi pour le motiver à revenir au sein de l'entreprise. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, nous passons au sujet de Maëlys.
Alors, avec moi, nous allons voir comment les entreprises ont-elles vécu la crise sanitaire de 2020. Donc, suite à la crise du Covid-19, qui a été pour toutes les entreprises exceptionnelle, bouleversante et inédite, elle a, en quelques semaines, changé la vie des entreprises. Il y a eu environ 520 000 démissions par trimestre en 2020 et 2022, et plus de 4 000 entreprises qui ont décidé de se porter sur le télétravail.
Mais Maëlys, que disent réellement ces chiffres sur le monde du travail à la sortie de cette crise sanitaire ?
Alors, quel que soit leur domaine, les entreprises doivent impérativement informer leurs salariés, par exemple en affichant les infos sanitaires dans les lieux de passage, adapter l'espace de travail avec des marquages au sol, des mesures de distanciation, aménager un temps de travail avec par exemple le télétravail et la mise à disposition des équipements indispensables, le gel, les masques. Les entreprises, elles ont vécu toutes différemment la crise puisqu'environ 73% des entreprises ont diminué leur chiffre d'affaires. mais plus d'un quart ne connaissent pas la perte d'activité. Et 15% des entreprises connaissent même la hausse de leur activité. Les entreprises françaises, elles ont dû s'adapter pour trouver des solutions à leur perte d'activité, en commençant par la forte réduction de leurs dépenses. Environ 70% d'entre elles ont développé une stratégie vers l'amélioration des services déjà existants. En tout, c'est 36% des entreprises qui ont été très peu, voire même pas affectées par la crise, et à l'inverse, un quart d'entre elles qui ont été sérieusement touchées d'après l'INSEE. Ce fut notamment le cas du transport ferroviaire avec par exemple l'entreprise Europorte France ou de certaines activités culturelles comme les musées, les bibliothèques, mais aussi surtout le tourisme, mais aussi l'hébergement, restauration avec par exemple le McDo ou Novotel, qui a été le secteur le plus touché en France avec une chute d'activité estimée à 50% sur la période allant de mars à décembre 2020.
Et dis-moi, y a-t-il eu certaines innovations de la part des entreprises pendant cette période Covid ?
Alors oui, la transformation en digital, elle est devenue vraiment incontournable. C'est d'ailleurs avec la pandémie que 97% des entreprises déclarent avoir déployé des outils digitaux afin d'interagir avec leurs clients. Les RH ont été mises en première ligne face à la crise, puisque leur but est de maintenir l'activité habituelle tout en liant les contrats touchant les collaborateurs. Aujourd'hui, plus que jamais, les RH savent faire preuve d'adaptabilité, flexibilité et créativité. Ils ont particulièrement fait preuve d'écoute et selon le RH, cette crise a aussi permis de renforcer la collaboration au sein des équipes et la cohésion du département RH. Il est donc finalement probable que l'impact de cette crise due au Covid-19 sur les entreprises françaises soit moindre dramatique que ce que l'on pense.
Alors merci, maintenant c'est au tour de Romane.
Alors mon sujet est le bien-être des salariés. Le bien-être des salariés est un sujet qui compte la santé mentale, physique, émotionnelle et financière des salariés. Il est influencé par diverses raisons comme les relations entre collègues, la prise de décision et la disponibilité des outils et ressources. Les horaires, la rémunération et la sécurité au travail ont également un impact non négligeable sur le bien-être des employés. Bien qu'il varie selon les individus, le bien-être des employés doit atteindre un certain niveau pour qu'un lieu de travail puisse être considéré comme sain et productif. Des facteurs externes concernant la vie privée du salarié peuvent également contribuer au bien-être des employés.
Pourquoi il est important que les entreprises fournissent aux salariés tout le soutien et l'attention nécessaires pour préserver leur bonne santé mentale et physique ?
Il est très important que les entreprises fassent attention à la santé mentale et physique de leurs salariés, car s'ils se sentent bien dans l'entreprise, cela favorise une productivité accrue, réduit le taux d'absentéisme, renforce la fidélisation des employés, améliore l'image de marque, contribue à une culture organisationnelle positive, assure la conformité aux réglementations, réduit les coûts médicaux et au final impacte positivement la performance globale de l'entreprise. En investissant dans le bien-être des salariés, les entreprises créent des environnements qui amèneront à la réussite durable.
Est-ce que toutes les entreprises mettent en place des stratégies pour le bien-être des salariés ?
Non. Malgré les conséquences qu'apporte le mal-être au travail, certaines entreprises ne mettent pas en place des stratégies pour le bien-être des salariés, ce qui pourrait aider les employés à se sentir soutenus au travail par leurs supérieurs. Le fait d'aider et de soutenir les salariés peuvent également renforcer le niveau d'engagement des employés et les motiver à atteindre leurs objectifs, car le bien-être des salariés joue un rôle clé. Des problèmes tels que les horaires intenables, un manque de repos et des salaires trop bas affectent la santé des employés à tout plan. À présent, beaucoup de personnes osent enfin prendre la parole pour témoigner à quel point le manque d'attention auprès des salariés et l'absence de mesures en faveur du bien-être des employés les affectent personnellement.
Alors du coup, pour revenir à mon professionnel, j'ai demandé si leur entreprise faisait des efforts ou alors si elle mettait en place différentes choses pour le bien-être au travail. Aujourd'hui, mon salarié il confirme que le bien-être au travail est très important et que grâce à ce bien-être, les salariés peuvent être plus productifs et fidèles. Le bien-être peut se faire au bureau. Maintenant, on a le matériel de confort avec les différents sièges ou alors les ordinateurs adaptés au niveau de la tête, la sympathie entre collègues, mais aussi la reconnaissance du travail et de la motivation de la part du patron.
D'accord, merci. Mais du coup, Romane, que se passe-t-il quand les salariés se sentent bien dans l'entreprise ?
Quand les employés se sentent bien, ils ont tendance à être plus performants. Le bien-être augmente la productivité et aide les employés à prendre de bonnes habitudes. Des études montrent que les travailleurs sont 13% plus productifs lorsqu'ils sont heureux. Par exemple, lorsque la direction fixe des règles et des horaires arrangeantes, permettant de concilier la vie privée et la vie professionnelle, elle favorise le bonheur. Ces bonnes attitudes permettent également d'assurer la continuité des activités, même quand il y a des difficultés. Il s'agit également d'éliminer des pertes de temps causées par l'absentéisme, le stress et la maladie. Pour bon nombre d'entreprises, ces problèmes s'avèrent au final beaucoup plus coûteux que des dépenses de santé classiques. Même si un bon moral est le meilleur des avantages pour les entreprises, il est également important d'empêcher des problèmes prévisibles de ce type de survenir. Alors que certaines entreprises ont de plus en plus de mal à conserver leurs employés, certains patrons investissent dans le bien-être pour les garder. Mis sur le bien-être des salariés, un géant des produits bio le fait depuis 20 ans. Cela commence chaque matin avec un rituel, des fruits en libre-service offerts aux employés. Les salariés qui ont des enfants en bas âge peuvent les déposer à 400 mètres de l'entreprise dans une crèche dédiée. L'inscription est financée en partie par les employeurs. Dans l'entreprise, plus de lumière, arbres, tout est fait pour éloigner le stress de au bureau. Les employés peuvent emprunter des trottinettes électriques pour les déplacements courts afin de faciliter leur transport. En tout, ils sont plus de 800 salariés. Ils peuvent profiter des installations pour pratiquer du sport, boire un café, faire des boutiques. Un biopôle qui a coûté près de 13 millions d'euros à l'entreprise, le PDG en a financé la moitié. Ce dernier estime que cet investissement a été rentable car cela favorise le bien-être au travail.
Alors merci Romane pour ton sujet très intéressant, mais malheureusement nous allons finir par le sujet de Elidia.
Oui, alors mon sujet à moi, il se porte sur l'intégration des nouveaux métiers dans le monde du travail et particulièrement celui d'influenceur.
En quoi consiste le métier d'influenceur, Elidia ?
Eh bien, le métier d'influenceur consiste à créer du contenu vidéo sur les réseaux sociaux, mais aussi à proposer des services et produits donc de type cosmétique, mode ou quotidien, envoyés par des entreprises, qui souhaitent promouvoir leur marque ou certains de leurs produits. Et pour ce faire, étant donné que nos chers influenceurs détiennent ce pouvoir d'influence via la confiance qu'ils ont établie avec leur communauté, pour continuer d'alimenter cette dite relation et donner cette sensation de transparence à son public, ces derniers n'hésitent pas à nous partager certains aspects de leur vie quotidienne et leur passion.
Et comment le phénomène d'influenceur a-t-il débuté ?
Eh bien, le métier d'influenceur a fait son entrée sur la scène médiatique avec l'essor des réseaux sociaux, donc c'est-à-dire dans le début des années 2010, lorsque les influenceurs ont commencé à partager leur vie, leur passion et leur partenariat sur la plateforme YouTube. Et pour vous donner quelques exemples, on a Enjoy Phoenix et Lena Situation. Donc Enjoy Phoenix, pionnière dans le domaine, puisqu'elle a débuté sur YouTube en partageant des vidéos lifestyle et beauté. Elle compte aujourd'hui des millions d'abonnés sur les diverses plateformes telles que YouTube et Instagram. Et donc Lena Situation avec une approche assez similaire, donc lifestyle, où elle partage son quotidien d'entrepreneuse, ses voyages et ses conseils mode sur Instagram et YouTube également. Voici deux noms d'influenceuses françaises très connues en France, en Europe et même à l'étranger, qui connaissent un franc succès depuis leur début sur YouTube jusqu'à aujourd'hui grâce à leur fidèle communauté ainsi que leur contenu qui ne cesse d'évoluer et qu'ils adaptent aux plateformes un peu plus récentes comme TikTok.
Et comment le métier d'influenceur évolue-t-il dans le monde du travail ?
Alors en effet, ce métier en pleine expansion est très ouvert et accessible. Aujourd'hui, pour être influenceur, il suffit d'un téléphone, d'un contenu divertissant sur les réseaux sociaux et d'une communauté engagée. Ce métier ne demande pas de capacités physiques, manuelles ou intellectuelles très développées, même aucun diplôme ou certification particulière. Ainsi, l'accessibilité à ce nouveau métier est si élémentaire que l'opinion publique est très mitigée concernant l'accueil de ce phénomène qu'on qualifie de métier aujourd'hui. Alors, pour certains, le problème, finalement, est que le métier d'influenceur encourage notre société actuelle vers un système de méritocratie bafouée. De plus, Avec le développement des réseaux sociaux et de ce type de métier, beaucoup sont inquiets à l'idée de devoir se faire remplacer par ces nouvelles méthodes marketing qui fonctionnent plutôt bien. Donc on pense notamment à la suppression de vendeurs physiques en boutique, comme c'est déjà le cas avec les caisses 100% automatiques dans certains pays. C'est le marketing participatif.
Alors donc moi pour l'influenceur, donc au niveau des influenceurs, j'ai demandé aux professionnels si les influenceurs les aidaient en tant qu'entreprise ou s'ils étaient efficaces. Donc aujourd'hui, les influenceurs sont de vrais nouveaux communicants pour eux. Ils sont aussi parfois moins chers que les publicités de la télé et ils sont parfois plus accessibles. Ils permettent aussi d'avoir, donc d'être plus efficaces dans la vente de certains produits ou de nouvelles communications. Ils sont aussi surtout très performants au niveau des nouvelles générations.
Alors merci à toi Maëlys d'avoir interrogé un professionnel pour en apprendre plus sur le travail. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez réécouter notre émission radio, elle est disponible sur le site Studio Gaco. Merci de votre écoute et à bientôt pour en apprendre plus sur ce qui se passe autour de vous grâce à ces Dans la boîte.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.